Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Perico Legas, journaliste à Marianne, Pierre Rondeau, économiste du sport, et Frédéric Hermel, journaliste RMC. Dans un instant, c'est une idée des LR pour lutter contre la délinquance, rendre public les noms des consommateurs de drogue récidivistes. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Vous nous appelez au 3216, à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, le mariage de Renaud, le chanteur, c'était ce week-end. 30 ans d'écart entre les époux. Est-ce que c'est gênant? À 14h40, les immanquables. Et puis Alfred, on joue.
Oui, on joue Rémi, parce que demain, mardi 7 mai, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes, match retour. Et c'est sur RMC qu'on va vous le faire vivre. On vous propose de le vivre de l'intérieur avec l'expérience RMC. Avant le match, visite des studios RMC et rencontre des équipes, puis direction le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Enfin, vous serez dans les coulisses de l'after sur RMC pour débriefer le match en direct dès que vous entendez ce signal. À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16 pour vous inscrire. L'alerte peut tomber à n'importe quel moment. Soyez donc bien attentifs. Vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
C'est le plan du jour, plan dévoilé par le patron des LR, Éric Ciotti, pour un choc d'autorité et de sévérité dans notre pays face à la délinquance. Et parmi les idées proposées, Alfred, celle de rendre public les noms des consommateurs de drogue.
Oui, dans ces 25 mesures proposées, l'une retient donc particulièrement l'attention, puisque lorsqu'il serait condamné pour récidive, un consommateur de stupéfiants verrait sa peine publiée en ligne, le fameux « name and shame » anglo-saxon qu'on pourrait traduire par « nommer pour faire honte ». Il est couramment utilisé dans le monde de l'entreprise pour désigner par exemple une entreprise qui n'honore pas ses délais de paiement ou ne respecte pas des règles d'hygiène. La DGCCRF, la répression des fraudes, l'utilise couramment pour informer les clients, mais c'est encore complètement illégal concernant les personnes physiques. Cette proposition de publier en ligne les peines de consommateurs de drogue pris pour récidive a déjà été explorée l'année dernière au Royaume-Uni par le parti travailliste, mais la proposition n'avait pas abouti, faute de soutien suffisant.
Rendre public les noms des consommateurs de drogue, bonne ou mauvaise idée, vous nous appelez au 3216. Frédéric Hermel.
Je pense que si LR veulent avoir un peu plus de députés européens ou de députés nationaux, il va falloir trouver d'autres idées quand même. Franchement, parce que là, c'est vraiment la déclaration de Ciotti à l'emporte-pièce, comme ça, qui fait le flash comme ça. Je veux dire, oui, il y a un problème de drogue, bien sûr. Mais quand tu annonces que tu veux name and shame, déjà, c'est le côté, c'est l'américanisation du pays, quoi. Mm-hmm. De prendre des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture à nous. Et c'est reconnaître, en fait, finalement, qu'on n'arrive pas à lutter contre le vrai problème qui sont les trafiquants, qui sont les dealers, qui sont les organisations, les cartels internationaux qui ont investi notre pays et l'Europe en général. Donc c'est vraiment l'idée à la con
qui je vais le dire.
Qui n'est pas applicable. En plus, je veux dire, c'est pas constitutionnel.
En plus.
Voilà.
On
va réunir le Congrès à Versailles pour changer la Constitution pour ça.
Il ne reste pas moins. C'est ridicule. Fred, et ça c'est une tendance actuelle du gouvernement. Oui. Les LR ne sont pas au gouvernement, aux manettes. Mais un ex-LR, Gérald Darmanin, l'a dit, aujourd'hui, il faut taper sur les consommateurs. Et on veut de plus en plus taper sur les consommateurs,
mais pas comme ça.
Sur leur responsabilité.
Par la loi, pas par un truc anticonstitutionnel. Enfin, je veux dire, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui a été pris plusieurs fois fumant du cannabis.
Enfin, qui a été condamné.
Condamné. Pour avoir fumé du cannabis, il va être.
Non, t'es pas condamné pour avoir fumé du cannabis aujourd'hui.
Ah donc c'est pour les drogues dures.
Bah non, c'est des consommations de. On peut imaginer que ça serait notamment dirigé à l'égard de ceux, et ça arrive, qui sont à la fois consommateurs et qui.
Non mais c'est pour ça qu'encore une fois la loi.
Qui sont à la fois consommateurs et qui trafiquent aussi
en récidive.
En récidive.
Non. Enfin,
Non, mais je veux dire, il y a d'autres manières de lui. Enfin, la solution, elle est policière, elle est judiciaire, elle est pas sociale entre guillemets, parce que ça, c'est une mesure sociale, quoi. Donc c'est vraiment idiot. Et là, franchement, c'est le LR ont été un grand parti, quoi. Mais franchement, en être arrivé à ça pour lutter pour un phénomène, il y a un vrai problème de violence. Vraiment, enfin, ces cartels, on voit, et aux Pays-Bas, c'est un désastre. C'est en train de devenir un narco-État. Oui, mais c'est pas avec attention, hein. On va mettre ton nom sur internet, hein.
Et la photo.
Et la photo.
Oh là là.
Mais tu vois, le mec va dire, ouais, cool, ça fait de la pub.
Et c'est ça le pire. En fait,
non, mais c'est
malheureusement, alors je voulais pas employer ce terme, mais Fred l'a dit, donc je vais aussi le répéter. C'est une idée à la con. C'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une idée. Elle est même pas réfléchie. Elle est balancée comme ça à un coin de table. Il était à un repas.
Attends, regarde ce qu'a dit tout à l'heure Alfred. Ça a déjà été proposé en Grande-Bretagne.
Ça a été proposé.
C'est pas une idée.
Est-ce que ça a été appliqué?
Non.
C'est pour ça qu'il y a une réflexion a posteriori et la réflexion, la conclusion de la réflexion, c'est que ça ne marcherait pas. Le name and shame existe effectivement. C'est vrai que le nom anglais existe outre-Atlantique et outre-Manche pour les cas particuliers. Là, j'ai un point intéressant. On parle de dépendance. On parle de consommateur de drogue. C'est pas une entreprise qui n'aurait pas respecté les devoirs fiscaux. Quelqu'un qui est dépendant.
Encore une fois, on parle de personnes. Alfred, tu m'arrêtes si je me trompe. On parle de personnes qui aurait été condamné en récidive.
D'accord.
Pour usage de stupéfiants. Et en France, tu es rarement condamné. Si tu es malade.
Premier élément.
Non mais attends, je termine. Tu es rarement condamné si tu es un simple usager de drogue. Il faut quand même que tu aies des quantités assez conséquentes.
Ce que dit la loi aujourd'hui, c'est
pour être condamné.
Mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est idiot.
Ça a été contraventionnalisé. Maintenant, c'est une amende que tu as quand tu fumes, quand tu es en possession de cannabis pour une drogue plus dure. Là, c'est pas une contravention, c'est quand même plus lourd parce que c'est quand même plus grave. Mais rares sont ceux et celles qui sont effectivement condamnés pénalement pour ça. Si on venait à l'appliquer, imaginons on l'applique. Si c'est pour des cas de drogue plus dure, le crack, l'héroïne, la cocaïne, c'est pas une drogue récréative. On est dépendant. C'est pas en mode, oh là, je vais réfléchir ou pas. Il y a ma photo. J'arrête de consommer.
Ils sont malades.
C'est une maladie. Donc c'est pas en disant, ah oui, on va mettre leur photo sur Internet. Mon Dieu, ils vont arrêter. Les gens calculent pas en se disant, calculent quoi avantage. Alors attendez, je prends du plaisir à fumer, mais il y a ma photo. Je vais arrêter de fumer. C'est pas comme ça que ça marche. L'absence totale de réflexion des Républicains aujourd'hui me désole. Fred l'a dit, c'était un grand parti autrefois. J'ai jamais été avec eux, mais c'était quand même un grand parti autrefois. Aujourd'hui, les gens qui sont responsables de ce parti n'ont pas le moindre degré de réflexion, ne réfléchissent pas à leurs actes, à leurs paroles. Faire ça, c'est absurde et ubuesque. C'est irréfléchi. Et voilà, il y a plein d'autres solutions, mais bon, eux, ils ont vraiment du mal à réfléchir.
Rendre public les noms des consommateurs de drogue, bonne ou mauvaise idée? Vous nous appelez au 3216. Perico Legas.
Alors, c'est peut-être totalement réfléchi, prémédité, étudié. Tu n'as pas présagé de l'état intellectuel des LR. Bon, non, ils ont le droit de penser ça. Et ça s'appelle une sciotise. On est habitué, il y en a eu que les
jolis. Ça, il l'a bien préparé.
Il parlait pas tout à l'heure.
Non, mais surtout qu'il est un peu coutumier du fait.
Mais oui.
Il a une présidence difficile, son parti est en situation de faiblesse, il a besoin de faire parler de lui. Il sait qu'il y a une obsession dans ce pays. Comment limiter? Par quels moyens? Autorisation, maintenant. Alors, il y a deux questions techniques. Sur quel support il diffuse cette information? Ministère de l'Intérieur, ben, ça s'appelle de la délation. Vous n'avez pas utilisé le terme. Et c'est une pratique qui a très bien fonctionné dans les grandes dictatures. En Chine, c'était carrément le pilori avec la pancarte, j'ai fumé du... Voilà. Et toutes les grandes dictatures ont utilisé cette dénonciation publique avec soit le Dazibao, et puis ensuite la confession publique, je demande pardon, avec voilà, et puis ensuite éventuellement...
Mais ça, on devrait le faire, tiens, c'est une bonne... La prochaine Ciotti, ça va être ça.
Ce que j'ai envie de dire à Eric Ciotti, Monsieur Ciotti, pourquoi s'en arrêter là? Là, vous allez combattre effectivement la consommation de drogue, l'excès de vitesse. Allez, on peut publier, il a passé à 130. Et puis le mauvais payeur d'impôts. Allez, hop là. Tout le monde affiché. Alors, sachez que lorsqu'on est condamné, malgré tout, ça peut être public. On apprend une condamnation. Mais là, ça serait le fait de la publier sur un site public. Ça s'appelle de la délation. Et on tombe ensuite, vous avez évoqué effectivement le droit, la Constitution. Voilà, il y a des règles.
C'est infaisable.
Alors, non, mais je comprends. Non, mais ce qu'on a envie de dire, mon petit, cher Eric Ciotti, on comprend votre idée. Faut réfléchir à tout pour essayer de dissuader des gens de ne pas utiliser les stupéfiants, de pas se droguer. Est-ce que ça pourrait dissuader certains? Oui, si ma mère apprend que je fume mon pétard, tu vois, je vais être Mais bon, ça s'arrête là. C'est pas ça qui inversera la tendance. Et politiquement, c'est effectivement extrêmement contestable. Ça nous a mis Pierre Rondeau et Fred Hermel dans un état de colère épouvantable.
Rendre public les noms des consommateurs de drogue. Vous nous appelez, c'est le 3216. Et vous réagissez également notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur Direct Studio, Alfred.
Oui, le débat fait rage. Deux messages. Loné qui nous dit cette idée est très dangereuse et ouvre la porte à de futures dérives. Ouais, oui. Et puis un autre message plein d'humour de Julien qui dit idée absurde. Allez, je me dénonce, je fume du cannabis et je m'appelle Julien. Comme ça, c'est fait.
Nassim est avec nous au 32-16. Bonjour Nassim.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. On est en Seine-Saint-Denis, c'est ça Nassim ?
C'est bien ça.
Vous faites quoi dans la vie ?
Alors moi je suis avocat.
D'accord, avocat.
Un peu plus de 3 ans.
Très bien, donc on va avoir la vision d'un juriste sur la question, d'un avocat. Nassim, est-ce que ça serait une bonne idée que de rendre public les noms des consommateurs de drogue récidivistes ?
Alors, ce que je disais avant de vous avoir, c'est que pour moi, c'est une proposition qui est complètement inadaptée. Parce que c'est ce qui est proposé, c'est que ce soit le nom des consommateurs qui soit divulgué. Mmh. Je crois que ça a été dit par l'un des intervenants. En général, les consommateurs propres ne sont que très rarement condamnés.
Bah oui.
Ce qui est poursuivi, condamné, c'est les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans un trafic de stupéfiants, soit en qualité de revendeur, soit en qualité de guetteur, soit en qualité de manière plus générale de gérant d'un terrain. Les consommateurs seuls ne sont pas condamnés. Ça, c'est la première
voilà.
raison.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas, ou alors la proposition, comme le dit Perico, la proposition, elle est tombée comme ça, sans avoir été réfléchie. Mais si elle l'a été, on peut imaginer que elle ça serait à destination des consommateurs récidivistes qui sont par ailleurs trafiquants. On peut l'imaginer, Nassim.
On pourrait l'imaginer, mais la deuxième difficulté, c'est que c'est ce qui a également été dit, c'est que la consommation de produits stupéfiants, que ce soit du cannabis, du crack ou tout autre produit stupéfiant en général, c'est pas une consommation qui est récréative. À la limite, pour le cannabis, je veux bien l'entendre, mais pour les autres drogues dures qui sont très rapidement addictives, c'est pas des consommations qui sont récréatives. Et de la même manière que ça viendrait à l'esprit de personne de publier le nom d'une personne qui serait addict à l'alcool ou à la cigarette parce que c'est des substances addictives, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on considérerait que publier le nom des personnes qui sont addictes à ces produits stupéfiants serait une bonne idée.
Vous-même, Nassim, en tant qu'avocat, vous avez eu à travailler pour des clients, enfin des clients qui ont fait appel à vous, pour usage de stupéfiants ?
Pour usage de stupéfiants et de manière générale des personnes qui étaient considérées, qui étaient soupçonnées d'être impliquées dans des trafics de stupéfiants. Et moi, ce que je remarque, la plupart du temps, et notamment pour les consommateurs de produits stupéfiants, quels qu'ils soient, c'est que c'est des personnes qui ont en général des parcours de vie assez chaotiques. Il ne s'agit pas de faire de généralité et de tomber dans la culture de l'excuse en disant que toutes les personnes qui ont des parcours chaotiques forcément seront amenées à consommer des produits stupéfiants. Mais force est de constater que c'est une réalité qui est énormément présente. Et trop souvent, la seule réponse qu'il aurait apportée, c'est une réponse pénale particulièrement sévère, une réponse carcérale quand les personnes sont en état de récidive et qu'il n'y a absolument aucun point qui est mis sur la réinsertion, sur les parcours de sortie de ces parcours de ces addictions. Et je trouverais, à mon sens, beaucoup plus utile de les accompagner vers une échappatoire pour justement se retirer de cette addiction plutôt que de considérer que le simple fait de mettre leur nom dans un site internet serait suffisant pour les faire sortir de cette addiction.
Bah, ça, on a eu un chiffre aussi ce matin, Nassim, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, qui nous apprenait que un détenu sur quatre incarcéré aujourd'hui en France fume.
Mais il y aura prison.
Sur fume du cannabis en prison.
Il y aura
cette question. Oui,
mais pourquoi
qu'il commande Nassim, il faut réagir et Fred, je te donnerai la parole après. Nassim.
Ouais, parce que ça circule en détention, c'est celui de tous. Ouais. Alors, par qui exactement les produits stupéfiants sont entrés en prison? On le sait pas vraiment, mais on sait que en général, ce soit la famille et parfois même des surveillants pénitentiaires qui sont impliqués dans le fait de faire rentrer des produits stupéfiants en détention. Mais là encore, on est sur une problématique d'addiction. La première question qu'on pose aux personnes quand elles sont sur le point d'être incarcérées et qu'il y a un mandat de dépôt qui a été décerné, le juge est obligé de faire une sorte d'état des lieux de l'état de santé physique, psychique de la personne. Et l'une des questions qu'on leur pose, c'est s'ils ont des addictions particulières et s'ils veulent être suivis en détention. Parce que c'est une réalité qui est connue de tous et qui nécessite qu'il y ait d'autres réponses qui soient apportées que celles qui soient purement carcérales, puisque ça fait des années qu'on apporte uniquement une réponse pénale, répressive et carcérale sur cette question et qu'il n'y a absolument aucune amélioration qui a été...
Bah on a perdu Nassim. Mais merci Nassim d'avoir été avec nous. Nassim qui nous a appelé au 32-16. On a bien compris son propos. Pour être précis, le chiffre qui a été dévoilé ce matin, c'est un chiffre qui vient de l'Observatoire français de lutte contre les drogues et contre la toxicomanie, et qui nous dit que un détenu incarcéré aujourd'hui en France, 1 sur 4 fume quotidiennement du cannabis en prison. Donc.
Bah, je pense que c'est même plus, et d'ailleurs c'est un peu toléré, parce que ça calme beaucoup de gens.
Voilà.
Ça, c'est une réalité. Et je suis visiteur de prison. J'ai fait plusieurs actions, notamment avec une association qui amène des livres en prison. Et quand vous parlez en off avec des gens qui interviennent quotidiennement dans les prisons, on sait très bien qu'il y a aussi une certaine paix sociale qui se fait parce que les gens, ils sont sous cannabis.
Comme la présence du portable.
Et ils dorment une grande partie de la journée, de la nuit.
Ça facilite
la vie au quotidien des gens qui travaillent là-bas. Et Dieu sait, c'est difficile.
Vu l'état des prisons.
Donc, je n'accuse pas. Comprend
n'y approuve.
Qu'il y ait parfois un certain laxisme qui permet d'éviter des problèmes.
Rendre public les noms des consommateurs de drogue. Vous continuez à nous appeler au 3216. Et Rudy Mana nous rejoint. Bonjour Rudy.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour.
Avec nous dans Estelle Midi.
Bonjour à tous.
Porte-parole du
bonjour
syndicat Rudy. Alliance Police Nationale. Rudy Mana, cette idée développée par LR, on le disait tout à l'heure, il y a 25 idées, c'est un plan. Ce que veut Éric Ciotti, le patron des LR, c'est un choc d'autorité et de sévérité de lui, hein. À l'égard de la délinquance. Et cette idée de rendre public les noms des consommateurs de drogue récidivistes, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
Bah écoutez, si je dois vous dire la vérité, c'est pas l'idée de l'année, c'est pas l'idée de la semaine, c'est pas l'idée du jour, c'est peut-être l'idée de la minute. Mais il faut pas aller au-delà de la minute, parce que pour que ce soit une bonne idée, il faudrait qu'elle nous soit utile. Et franchement, je vous le dis, en tant que flic, ça ne sera pas utile. Parce que très honnêtement, de noter les noms des personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois pas que ça sera constitutionnel. On va les noter où? Sur un site internet? On va les noter autour du Parc des Princes ou du Stade Vélodrome en mettant telle personne à fumer du cannabis? Franchement, ça va rien apporter. Maintenant, c'est dommage de retenir cette idée, parce que dans les propositions d'Éric Ciotti, il y a des bonnes idées, justement. La majorité pénale à 16 ans. Il parle aussi de l'amende forfaitaire délictuelle de la mettre à 1 000 euros, qui peut être une bonne idée d'augmenter. Ouais, pour
rappelons, Rudy Manas, justement, ça vise les consommateurs. C'est si vous êtes surpris en possession de drogue par les forces de l'ordre, on vous propose d'ailleurs, vous êtes obligé d'accepter, mais on vous propose, plutôt que d'aller devant un tribunal ou un magistrat, de payer une amende délictuelle forfaitaire.
C'est ça, tout à fait.
Qui est aujourd'hui de combien?
150 euros.
D'accord.
150 euros aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'en fait payer que 36 ou 37%. Ouais. Alors là, l'idée serait de l'augmenter, ce qui peut être une bonne idée, sauf qu'il faut, il faut trouver des solutions pour faire payer bien davantage de personnes.
Ouais.
Et
ouais.
C'est là la bonne idée. Ça serait là peut-être la bonne idée, en tapant peut-être dans les prestations sociales, en tapant peut-être dans les salaires quand les individus travaillent. Il faut qu'on arrive à faire payer ces amendes forfaitaires délictuelles. Après, il y a des. Éric Ciotti propose aussi de mettre 100 000 places de prison. En voilà aussi une bonne idée, parce que depuis qu'on nous promet des places de prison et qu'on ne nous les donne pas, parce qu'Emmanuel Macron avait promis 7 000 places de prison en 2017.
Ça fait 30 ans qu'on nous promet des places de prison.
Exactement, et on ne nous les donne pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une surpopulation carcérale qui dépasse l'entendement, il faut se le dire. On a même des cris d'alerte des gardiens de prison, des syndicats de gardiens de prison qui ne savent plus comment faire pour canaliser les prisonniers.
Donc, Merci Christiane Taubira.
Merci Christiane Taubira. Exactement. Donc, on se retrouve là, ce sont des vraies idées. Pour l'idée qui est le sujet du jour, je vous dis la vérité, c'est une idée qui ne fonctionnera pas de toute façon et qui n'est pas utile de développer, parce qu'à mon avis, elle ne servira pas grand-chose. Mais à côté de ça, effectivement, il y a des idées qui peuvent vous être utiles.
S'il y avait une mesure à prendre aujourd'hui, Rudy Mana, la première, ce serait quoi?
Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire la majorité pénale à 16 ans. Je vous le dis comme je le pense, parce que on se retrouve aujourd'hui avec des mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, qui commettent énormément de délits. Avant, on avait une tranche d'âge de 18 à 21 ans. Aujourd'hui, il faut se dire les choses, on a une tranche d'âge de 16 à 19 ans. Et on se retrouve avec beaucoup de mineurs de 16 à 18 ans qui sont, il faut se dire entre nous, hein, ça, c'est des hommes les mecs maintenant, hein, ils font tous 1m85, ils ont des bras, c'est des jambes, je vous assure que c'est des bonhommes, quoi. Et on se retrouve avec des mecs qu'on interpelle, et qui ont l'excuse de minorité devant les magistrats, donc qui prennent des sanctions ridicules, et en fait, ils ont ce sentiment d'impunité, et c'est même plus qu'un sentiment, c'est une impunité qui se développe, et qui est très compliquée à gérer pour les policiers que nous sommes, et on intervient au quotidien, nous, avec ces mecs-là, et on se retrouve dans cette difficulté. Moi, je trouve que la majorité pénale qui est rabaissée à 16 ans, ça serait la première des initiatives, la première des idées à mettre en place.
Bah avec plus de places de prison, alors.
Tout à fait. Ça va en corrélation.
C'est
par
Ciotti. Non, mais voilà.
Tu sais très bien qu'elles vont pas être construites du jour au lendemain. C'est ça le problème. Mais merci beaucoup, Rudy Mana, d'avoir été avec nous. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Je veux donner la parole à Jérémy qui nous rejoint au 3216. Bonjour, Jérémy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. On est en Mayenne, c'est ça, Jérémy?
Exactement.
Vous faites quoi dans la vie?
Là, je suis en intérim, sinon j'étais serveur.
D'accord, très bien. Jérémy, rendre public les noms des consommateurs de drogue récidivistes, bonne ou mauvaise idée?
Bah, mauvaise idée.
Ouais, personne pour la défendre.
C'est terrible, hein?
Ouais, pourquoi mauvaise idée?
Parce que le problème, c'est que, bon, moi, vous voyez, quand j'entends déjà l'État qui fait que les gens qui fument de la drogue ont du sang sur les mains, c'est totalement faux, parce que nous, on a...
Vous êtes consommateur de stupéfiants?
Bah, de stupéfiants, on fume des petits pétards.
D'accord.
Mais on les achète sur Internet et on les fait pousser chez nous, dans notre jardin. Ah. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les quartiers, enfin... Ça fait comme si je faisais pousser des tomates, des artichauts, des haricots verts.
Ouais, sans protéger.
Bah, si la majorité de ceux qui sont usagers qui fument du cannabis faisaient comme vous, il n'y aurait pas la situation qu'on connaît dans certains quartiers.
Il n'y en a pas un jardin. Hein.
C'est plus le potager.
C'est pas la majorité, Jérémy.
C'est plus le potager, c'est le pétager.
De la drogue, on peut en... Et en fait, là, je suis devant le site de l'État, de l'État français, parce que quand on parle de drogue, on parle toujours de pétards et tout. Mais là, je vois, le terme de drogue couvre aussi bien les drogues illicites comme le cannabis, l'héroïne ou la cocaïne, que les drogues illicites comme la nicotine, l'alcool et les médicaments, qui sont aussi des drogues. Donc en fait, les gens en France pensent que la drogue, c'est des gens qui sont défoncés tout le temps. L'alcool est une drogue, la nicotine est une drogue, le sexe est une drogue, enfin tout est une drogue, c'est l'excès qui est une... Et en fait...
Le problème avec certains stupéfiants, je pense par exemple à cocaïne ou héroïne, c'est que vous êtes jamais, vous êtes toujours dans l'excès de toute façon à un moment très rapidement.
Non mais bien sûr, mais j'en ai pris de la cocaïne et tout ça. Et maintenant, il est plus facile de trouver de la cocaïne.
Ouais, c'est sûr.
Que du shit. Au niveau du terme de tarif.
Ouais.
Et les gens pensent que c'est que dans les grandes villes, mais en campagne, vous pouvez...
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, on l'a déjà dit. Ouais, absolument, Jérémy. Absolument, ça s'est répandu partout. Et aujourd'hui, effectivement, je parlais des quartiers, mais c'est partout. Donc, merci, Jérémy, d'avoir été avec nous au 32-16. On vous a posé la question, rendre public les noms des consommateurs de drogue récidivistes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Tous ceux qui ont participé à ce débat étaient contre. Malgré tout, c'est pas tout à fait révélateur de ce que nous dit la consultation.
Non, ce qui est vrai, c'est que le débat fait rage, mais vous, chers auditeurs qui avez voté, vous êtes pour à 52%, contre à 48%. Deux derniers messages, ce Vico qui nous dit « Je me moque de savoir si mon voisin fume du cannabis ». Et puis Nicolas qui nous dit « Et puis quoi encore? Quel voyeurisme ?»
Merci. Dans un instant, le zapping, c'est le meilleur du jour sur RMC. C'est dans Estelle Midi, évidemment, sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. L'État a-t-il abandonné les banlieues à Sevran, Seine-Saint-Denis? Une nouvelle fusillade a fait 3 morts en moins de 48 heures ce week-end. La faute au responsable politique pour Sullivan Jour, élu d'opposition au conseil municipal. Il est éducateur sportif et affirme que la jeunesse vit dans une misère sociale.
Il y a un climat de misère sociale où les responsables politiques depuis des décennies n'ont pas mis les moyens humains et sociaux nécessaires pour offrir à notre jeunesse une exposition différente qui leur permettrait d'avoir une sensibilité culturelle, artistique, sociale différente qui pourrait les sortir d'un certain obscurantisme.
Sullivan Jousse, élu d'opposition au conseil municipal de Sevran. Je te voyais réagir pendant qu'on l'écoutait, Fred Hermel.
Mais dire qu'on n'a pas investi dans les banlieues, c'est faux. C'est faux. Que tous les problèmes n'aient pas été réglés, c'est une évidence, vu la violence qui monte. Mais c'est faux de dire qu'on a abandonné les banlieues, qu'on n'a pas investi dans les banlieues. C'est faux, on a déversé des milliards et des milliards. C'est la réalité.
634 millions d'euros par an.
Ben voilà.
Oui, donc on est sur des milliards.
On est sur des milliards et des milliards depuis 20, 30 ans, quoi. Donc, alors on s'y est peut-être mal pris. Peut-être que cet argent n'a pas été bien déversé. Voilà. Après, il y a beaucoup d'infrastructures, pas les infrastructures, qui ont été brûlées aussi, par des émeutiers, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tant qu'on aura ce discours-là, on n'avancera pas.
C'est une des plus grosses dépenses sociales à caractère politique, pas sociale en général, que la République française a faite depuis Bernard Tapie. c'est des sommes incommensurables. Fred a peut-être raison. Ça n'a pas été accompagné d'une autre. C'est pas seulement investir dans la ville. C'est à l'école, dans le réseau social, dans l'éducation, dans la, voilà. C'est pas une mesure seule. Et c'est vrai que si cet argent a été gaspillé, c'est parce qu'il n'a pas été accompagné. J'allais dire, l'intendance n'a pas suivi sur le reste de la société. Mais dire, la France est le pays d'Europe occidentale où il a été fait le maximum, mais plus que partout. Et en plus, c'est une constance philosophique de toute cette classe politique française. On sait que c'est la ville. Et aujourd'hui, c'est au cœur du débat. C'est quand même Mitterrand qui a inventé le ministère de la ville avec Bernard Tapie. Mmh. Borloo a proposé une somme encore plus. Ça a été l'objet d'une dissension avec le président de la République parce que Macron avait dit que c'est un problème d'homme blanc, de mâle blanc de 50 ans. Donc c'est au cœur, voilà. Et on a mis des sommes astronomiques. Quand on voit qu'il y a des infrastructures publiques qui sont détruites par les émeutiers, c'est pour eux. Ils cassent les choses qu'on a construites pour eux. Voilà.
Je peux te dire qu'à la campagne, il y a beaucoup de campagnes qui auraient aimé recevoir autant d'argent que les banlieues.
Ah oui. Mais donc il y a la question budgétaire et Pierre effectivement on l'a cité. Hein, je répète, hein, 634 millions d'euros par an investis en matière de politique de ville pour les infrastructures, pour le service public, pour les services culturels, artistiques, et les activités extrascolaires pour ces jeunes à la fois des cités, des banlieues, mais de toutes les communes. Finalement, c'est pas uniquement propre à ces banlieues. La question est effectivement, je rejoins Fred là-dessus, comment ça a été dépensé? Moi, par exemple, je suis en train, pour une question qui me concerne directement, je suis en train d'étudier le taux d'équipement sportif à travers la France et la distinction qu'il peut avoir entre les territoires. On a le sentiment, quand on voit les budgets dépensés, les sommes dépensées, que théoriquement, l'ensemble des territoires français auraient le même accès en termes d'équipement sportif. Qu'on soit en Bretagne ou en Seine-Saint-Denis, il y aurait la même équivalence. Pas du tout. En Seine-Saint-Denis, un jeune sur deux ne sait pas nager. Ouais. Le taux de gens qui ne savent pas faire de vélo, qui ne savent pas nager, qui n'ont pas accès à un gymnase, qui n'ont pas accès à un terrain de foot.
C'est la même chose à Marseille.
Mais bien évidemment, je suis pas en train de dire que l'un ou l'autre. C'est juste que l'argent.
Je parle des quartiers nord de Marseille, par exemple.
On est entièrement d'accord. L'argent qui est donné, et c'est vrai que d'un point de vue macro, voilà, l'État donne. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment on dépense l'argent? Il y a des campagnes qui ont des équipements, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des jeunes qui ont accès à des activités périscolaires, extrascolaires, et d'autres qui n'en ont pas. Alors je dis pas que c'est la seule responsabilité. Hein. Je dis pas parce que vous n'avez pas de terrain de foot, vous donnez dealer. C'est pas ce que je dis. Simplement, quand on dit voilà, c'est l'échec de l'État. L'État donne de l'argent. Mais comment derrière c'est dépensé? C'est mal dépensé et évidemment c'est très mal dépensé.
Si tu as dit c'est un jeune sur deux qui ne sait pas nager.
En Seine-Saint-Denis, ouais.
Bah moi je suis du Pas-de-Calais, je sais pas nager non plus.
T'es pas jeune.
Ah oui, non plus.
L'antisémitisme. Chez Apolline Matin ce matin, on a parlé de ce sujet. Est-ce que l'antisémitisme se banalise en France? Alors que s'ouvrent aujourd'hui les assises contre l'antisémitisme organisées par Aurore Berger, les sondages pleuvent et sont sans équivoque. D'après la dernière étude IFOP qui a été publiée ce matin, 35% des moins de 25 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien supposé à Israël. Ceci explique pas l'explosion des actes antisémites, forcément. En tout cas, c'est ce que dit Élie Corchia, il est président du Consistoire central de France.
Au cours du troisième trimestre 2023, nous avons vu une explosion de 1000% des actes antisémites dans notre pays, en France. Donc on a bien vu que cette explosion des actes antisémites, elle est due à ce que vous avez appelé, effectivement, à juste titre, cette banalisation de l'antisémitisme, cette libération, non pas seulement de la parole. Déjà, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, et l'étude le montre très très bien, il y a une déferlante sur les réseaux sociaux d'antisémitisme, souvent sous couvert d'antisionisme. Donc Israël assassin.
35% des moins de 25 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien supposé à Israël. Ça te fait réagir comment, Fred?
C'est une horreur absolue. Alors, il y a les chiffres qui sont ce qu'ils sont. Et puis après, il y a les expériences de chacun. Moi, j'ai beaucoup de témoignages directs de gens, d'une amie qui a un nom de famille à consonance juive. Elle est juive et son nom est à consonance juive, juif ashkenaz, d'Europe de l'Est, qui commande un Uber. Le type vient en disant « Je suis venu te dire, je vais pas te prendre sale juive ». Et ça, c'est pas qu'on m'a dit. C'est une mamie qui m'a raconté directement de ce qu'elle vit. Le nombre de juifs qui décident d'enlever la mezouza. Vous savez, la mezouza, c'est ce petit
symbole.
Ce petit symbole avec
l'œil, ouais.
Avec la Bible à l'intérieur, qu'on touche avant d'entrer dans une maison, même entre chaque pièce. Beaucoup ont enlevé leur mezouza parce qu'ils ont peur des livreurs, parce qu'ils ont peur de gens qui pourraient rentrer, parce qu'ils sont aujourd'hui identifiés comme juifs, donc comme ennemis. Donc c'est pas simplement les juifs, c'est tous les témoignages de gens dans notre entourage qui nous racontent ce qui leur arrive. Beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui. En France, aujourd'hui, être juif en France, c'est être contraint de prendre de nombreuses précautions. De gens, par exemple, quand ils commandent à manger sur différentes plateformes, etc., qui changent leur nom. Qui changent leur nom. Ou qui donnent l'adresse à côté pour aller chercher. Parce que, voilà, vous vous rendez compte le dans quelle ambiance on est. On aurait pu imaginer qu'après le pire massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.
Le 7 octobre,
que ça allait peut-être, comment dire, avoir une réaction de sympathie envers un peuple qui a été agressé de cette manière. Et c'est tout le contraire, en fait.
Perico Legas.
C'est la plus grande tragédie à laquelle notre société moderne, française, européenne, est confrontée. C'est une tragédie politique, c'est une réalité. Alors, attention, soyons très précis, c'est tellement grave et c'est tellement horrible. Soyons très précis, ce n'est pas l'antisémitisme des années 30, des chrétiens, tueurs de juifs, c'est pas non plus l'antisémitisme des nazis avec cette race qui allait là. C'est la confusion, c'est le déplacement du conflit israélo-palestinien dans la société européenne, dans la société française. Aujourd'hui, les juifs, pour peu qu'ils aient un patronyme juif, c'est arrivé à Glucksmann l'autre jour à Saint-Étienne. Mmh. Vous êtes juif, vous êtes complice de ce qu'Israël est en train de faire à Gaza.
C'est pas que ça.
Ce n'est que ça.
Ah, c'est que ça.
C'est que ça.
Donc c'est plus l'antisémitisme qu'on a connu en France à la fin du 19e siècle. L'affaire Dreyfus.
Laisse-moi finir. Si Rémi, c'est à la marge.
Ouais.
Aujourd'hui, cette mouvance, cette véhémence qui permet à des gens qui sont pas antisémites au terme de ce qu'étaient les nazis de dire sale juif. Et voilà, c'est vous êtes complice du génocide que l'État d'Israël et ce barbare de Netanyahou est en train de commettre à Gaza.
Donc ça serait un antisémitisme, j'essaie de peser mes mots, une sorte d'antisémitisme politique.
Il faudrait l'appeler anti-israélisme, donc anti-sionisme, ouais. Puisque voilà, mais ensuite on rentre dans des nuances sémantiques compliquées. C'est le juif, aujourd'hui, citoyen français à part entière, et c'est des gens de gauche qui le pensent, et il y en a à la France insoumise, le juif, aujourd'hui, est censé être complice du génocide que l'État d'Israël commet à Gaza. Donc, je ne dis pas que c'est un génocide. Je parle de la définition de l'antisémitisme aujourd'hui dans la tête des gens. Israël est en train de commettre un génocide ou un crime de guerre ou une barbarie. Et c'est vrai que le problème est entier et que le gouvernement Netanyahou a aggravé la situation. Et malgré le 7 octobre, qui est pour moi la pire abomination qu'il y a eu, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, en France, il y a des gens, j'allais dire, pas sensés, mais de bonne foi, qui considèrent de façon abominable, mais assez abominable, que tout juif français est de fait, par son patronyme, complice de ce qui se passe.
Et tu évoquais Raphaël Glucksmann.
C'est épouvantable.
Glucksmann, qui avait pris des positions très fortes contre le gouvernement de Netanyahou contre Israël, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ses idées ne comptent pas. Ce qui compte, c'est son patronyme.
C'est dramatique.
Pierre Rondeau.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le débat, non pas politique ou médiatique français, mais dans le débat global franco-français, on a perdu toute forme de nuance.
Oui.
Péricole l'a très bien développé. Il y a l'antisémitisme, effectivement, qu'on a malheureusement connu et qui a un passif, hein, en tout cas la France a un malheureux passif. Mais quand on entend qu'il y a une augmentation de 1000% des actes antisémites, c'est 1000% en plus, hein, bien évidemment, c'est la conséquence de l'amalgame qu'il peut avoir entre juifs, donc forcément pro-Netanyahou, donc forcément pro-Israël, donc forcément contre Gaza, donc forcément contre la Palestine. Enfin non, je veux dire, on peut être juif, c'est une religion, c'est pas autre chose, peu importe, simplement aujourd'hui. Il y a malheureusement des gens qui vont faire l'amalgame entre qui vont associer. Donc, on a perdu toute forme de nuance. Qui vont dire t'es juif, donc t'es pour Netanyahou. Non, citoyen français. Non, je veux pas le savoir. T'es pour Netanyahou. T'es contre la Palestine. T'as tué 35 000 personnes. C'est toi qui es responsable de la mort de 35 000 personnes.
Tu es complice.
Non, mais attendez, nuance.
Avec ce détail aggravant que je veux absolument affirmer ici, ceux qui sont dans la confusion, qui font cet amalgame épouvantable, ignoble, c'est tragique. J'en veux à ceux qui soufflent les braises, sachant que c'est pas vrai. À ceux, et on sait très bien à qui je pense, qui soufflent les braises dessus.
Et les filles, dis les mots.
Je l'ai pas dit parce qu'il n'y a pas qu'eux, et qu'à les filles, tout le monde ne partage pas cet avis. Ruffin est horrifié par ça.
Ah oui.
Mais il y a des gens dans la gauche extrême française qui soufflent sur ces braises et qui pensent qu'ils vont tout simplement pouvoir aller à la guerre civile en jetant les musulmans français contre les juifs.
Rémi, tu parlais tu voulais mettre des mots et des termes sur sur le sujet du jour. Tu parlais d'antisémitisme politique. Mmh. Effectivement, quand on voit que la LFI va politiser cette chose malheureuse, oui, on est dans une forme d'antisémitisme politique. On va dire, voilà, on va être pour les Palestiniens, donc mécaniquement contre Israël.
Raphaël.
Je parle des ténors.
Dans la NUPES.
Je parle de certains qu'on entend, et même pas la NUPES. C'est vraiment terminé. Vraiment LFI et certains LFI qui ont politisé ce débat, je vais dire. C'est pas un débat, c'est juste attristant de l'entendre et de l'écouter, et qui vont mettre dans des camps, dans une forme très manichéenne. T'es pour la Palestine, t'es pour Israël, t'es pour Israël, t'es forcément islamophobe, t'es pour la Palestine, t'es forcément antisioniste, antisémite.
Donc tu vas voter pour nous.
Donc
c'est ça leur calcul.
Sauf que la dénonciation de cet antisémitisme, je dis bien abject, ne dédouane pas le gouvernement israélien de ce qu'il fait à Gaza. Oui. Et le problème, il est là, il faut trancher, mais de façon objective, avec bien sûr et du sang-froid.
Apolline Matin, pratiquez-vous le bed rotting? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une tendance qui consiste à traîner au lit le plus longtemps possible. Mais ça fait des millions de vues.
Quand j'étais jeune, on appelait ça la grasse mat.
Ouais, ça fait des millions de vues sur TikTok et Instagram. Charles Manien nous analyse le succès de ces vidéos.
Bed rotting, on pourrait traduire ça littéralement par pourrir au lit. Ça consiste à traîner au lit le plus longtemps possible pour y manger, lire, regarder des séries. Objectif, je cite, se reconnecter avec soi-même. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Est-ce qu'on n'aurait pas encore avant de trouver un mot anglais et un concept fumeux pour simplement décrire une grasse mat? Eh bien, la réponse est oui. Mais
c'est tout simplement une bonne vieille grasse mat.
Exactement. Mais sur les réseaux, on trouve désormais des milliers de vidéos d'influenceurs qui vous donnent des conseils pour bien traîner au lit. Vous fatiguez pas à tout regarder. Vous n'allez rien apprendre d'intéressant. Mais ce qui est notable, c'est le succès de ces vidéos, des millions de vues, sûrement de la part d'internautes eux-mêmes en train de traîner au lit. Donc en résumé, je suis dans mon lit en train de ne rien faire, tout en regardant des vidéos de gens qui ne font rien dans leur lit. Et si c'était ça la fin de la civilisation?
C'est affligeant. On va carrément là débattre et discuter de gens qui traînent dans leur lit en regardant des vidéos de gens qui traînent dans leur lit.
Oui.
Et limite, ces gens regardent des vidéos qui traînent dans leur lit, qui vont regarder des vidéos qui traînent dans leur lit. Non, mais moi, j'ai une solution. Faut supprimer TikTok. TikTok, ce n'est que ça. C'est que des vidéos qui ne servent strictement à rien.
Si, à espionner pour les Chinois.
Peut-être.
Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais le fait est que c'est...
Ça s'appelle la grasse mat. Mais quoi de tendance? Tu me parles de mode, là. C'est la grasse matinée. On fait ça depuis que le monde est monde.
Tu ne mets pas en train de faire la grasse mat.
Non, mais heureusement. Samedi, je vais me réveiller à 7h. Je vais aller prendre une douche. Je vais me faire tout beau, tout propre. Je vais me remettre au lit. Et j'ai une fille en mode, oh, je viens de me réveiller. Oh non, je vais rester au lit 3 heures. Salut. Non, mais attendez, on est où là? C'est quoi ce
troll? En fait, j'adore parce que Pierre, finalement, c'est un vieux conservateur, finalement. Décogratte un petit peu, tu vois. Il est pas progressiste parce que c'est ça.
Non, on disait avant, c'est un jeune vieux.
C'est un jeune vieux. Le truc, c'est de mettre des mots anglais pour des trucs qui existent déjà chez nous. C'est la grasse mat. Vous savez, un jour, il y a un célèbre magazine très féminin, très important en France, très classe, qui avait fait les nouvelles tendances du douching. Le douching, c'est la douche. Prendre la douche, ça fait ça, le douching. Non, mais à un moment, il faut arrêter de mettre des mots anglais sur des trucs qui existent déjà.
Rico.
Dans les années 60, sur la grasse matinée, quelqu'un m'a dit, il s'est élevé à 8h du matin. À l'époque, c'était la grasse matinée.
C'était mieux avant. Apolline Matin, un monument s'en va. Tiens, c'était mieux avant. Écoute ça, Perico, l'émission des chiffres et des lettres sur nos petits écrans depuis 1965 va s'arrêter en fin de saison. Faute d'audience suffisante, si. C'était le plus vieux jeu TV. Écoutez Charles Matin, qui nous en a parlé ce matin, dans Apolline Matin.
Le compte est bon pour le plus ancien jeu télé français, né en 1965, d'abord sur le RTF, sous le nom Le mot le plus long, avant de devenir Des chiffres et des lettres en 1972, diffusé quotidiennement pendant plus de 50 ans, avant de passer le week-end il y a 2 ans, sans réellement retrouver son public, ce qui a conduit donc France Télé à annoncer cet arrêt définitif à la rentrée prochaine, animé successivement par Patrice Lafont, Laurent Cabrol, Laurent Romeshko. Ce sont des milliers de candidats qui se sont succédés, avec évidemment quelques extraits restés cultes.
Philippe en 7 lettres.
Souple.
Et Axel.
J'ai pas trop autre chose que salope.
Perico, faut faire court en 10 lettres.
C'est la preuve de l'inculture.
En 10 lettres. Hein.
C'est la déculturation. C'était une émission populaire parce que tout le monde s'intéressait. Comme on ne sait plus lire et qu'on ne sait plus écrire, la majorité de la population de cette tranche d'âge, en termes d'audience, ça ne suffit plus. C'est une photographie parfaite de ce qui est devenu la société française. Et évidemment, ça ne nous rassure pas. Et c'était un grand...
Ça n'a jamais été regardé par des jeunes.
Pour moi, c'est la famille. Il y avait toute la famille, mes parents, mes grands-parents et tout. On regardait tous les chiffres et les lettres. C'était vraiment...
Oui, évoluer.
Et en plus, quand t'es enfant à l'école, tu te dépêchais pour essayer de trouver plus vite que tes parents, essayer d'avoir un mot, etc. C'est exceptionnel. Moi, l'un de mes rêves, c'est de rencontrer Patrice Laffont. Il a bercé mon enfance.
C'est que c'est senti maintenant Laffont, les chiffres des lettres.
Laffont, hein, si vous écoutez, je serais ravi de vous rencontrer parce que je trouve que ces personnages, mon maître Capello est décédé, mais c'était des personnages incroyables. Et je suis d'accord avec Perico. C'est parce que c'est la décadence de notre niveau de calcul et de trucs. Mais je pense sincèrement.
Ah, l'autre bisounours,
là. Mes impôts servent, même si j'ai plus de redevances. Mes impôts quand même servent à financer le service public. Je pense que le service public doit aussi ne pas regarder l'audience et continuer à financer ce genre de programme.
Mais il y a des jeux culturels la semaine, le week-end, sur France 2.
Je suis désolé, Pierre, mais le compte est bon.
Le compte est bon.
On n'a plus le temps.
487.
C'est terminé. 13h47. Voilà, c'est l'heure. Et on n'a plus le temps. Dans un instant, RMC s'engage avec vous. On va s'engager avec Bessence. Elle est en conflit avec son employeur. On va voir ça ensemble. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC. RMC Story, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. À cette heure-là, comme tous les jours, Amélie Rosic nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Salut Amélie.
Salut Rémi.
Aujourd'hui, Amélie, on va aider. En tout cas, vous avez essayé d'aider. Je ne sais pas si vous êtes arrivée. On va voir.
Attention.
Une salariée du secteur privé.
Ouais.
Elle s'appelle Bézance, c'est ça. Et donc, on va parler de droit du travail.
Absolument. Elle a la cinquantaine. Elle est vendeuse pour une marque de lingerie de luxe. Il y a 9 ans, elle tombe enceinte. Elle est ravie, mais c'est une grossesse à risque, notamment compte tenu de son âge. Elle continue quand même de travailler. Elle adore son travail. Elle enchaîne les heures supplémentaires jusqu'à ce jour de juin 2015.
J'ai eu un accident de travail, j'étais enceinte de 5 mois. Je me suis retrouvée avec des cartons sur moi. Je suis restée alitée jusqu'à l'accouchement.
Alors, je vous rassure tout de suite, aujourd'hui son fils a 9 ans et il va très bien, il se porte à merveille. Mais elle n'a pas pu reprendre le travail en raison de plusieurs pathologies. Et comme si ça ne suffisait pas, elle rencontre des difficultés avec son employeur pour ses congés payés. C'est exactement pour ça qu'elle nous a écrit, pour réussir à se les faire verser.
C'est justement en parlant de ce genre de situation, Amélie, la législation a évolué récemment.
Ah oui, c'est très récent. Et d'ailleurs, écoutez bien parce que ça peut vous concerner. Depuis le 24 avril, donc vraiment c'est tout frais. Tous les salariés, qu'ils soient en arrêt maladie classique ou professionnel, suite à un accident du travail ou non, cumulent des congés payés, et ça, quel que soit le contrat de travail. C'était déjà le cas avant. Et pour les salariés qui étaient du coup déjà en arrêt au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le 24 avril, eh bien on peut remonter jusqu'au 1er décembre 2009 pour faire le calcul, dans la limite quand même de 24 congés payés par an. Eh bien c'est le cas de Bessence. Selon nos calculs confirmés par une avocate qu'on a pu joindre, elle aurait ainsi cumulé 216 jours.
Je veux tout simplement mes droits, le versement de mes congés payés. Je suis triste et je trouve ça vraiment dommage.
Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour l'aider, Amélie ?
Eh bien, nous avons tout simplement rappelé à son employeur la nouvelle législation et ses obligations. Mais je vous la fais un peu courte, c'est plus compliqué que prévu. Bessence souhaite donc le versement de ses congés. Elle a toujours pas repris le travail. Son employeur refuse, lui dit qu'il faut qu'elle reprenne d'abord le travail et qu'ensuite il y aura calcul des congés payés. Bref, à ce stade, ça a dépassé nos compétences. Et surtout, l'employeur refuse désormais que nous intervenions dans le dossier. C'est arrivé 2 ou 3 fois. Depuis 2 ans, mais à ce moment-là, on ne peut rien faire de plus, mis à part l'aider et l'accompagner avec une avocate qui l'accompagne désormais. Et on espère que sa situation va se résoudre au plus vite grâce à elle. Et nous, évidemment, on vous donnera des nouvelles. En tout cas, maintenant, tous ceux qui sont amenés à avoir un arrêt maladie, sachez-le, vous cumulez des congés payés, quoi qu'il se passe et quelle que soit la nature de votre arrêt.
Merci Amélie, et que tous les employeurs qui nous écoutent
respectent la loi,
évidemment. Merci Amélie. On se retrouve demain.
On se retrouve demain, ce sera Solène Leroux qui sera avec vous. Et alors demain, on parle d'un gros dossier aussi. On va parler argent, mais éducation, parce que désormais, quand on est en bac professionnel, qu'on fait des stages, ils sont rémunérés par l'État. Enfin, ça, c'est sur le principe, quoi.
Ah oui, d'accord. Moi, je trouve ça un beau dossier aussi, ça. Amélie, tiens, juste une question. Tu es en couple.
Oui.
Est-ce que tu as un écart d'âge avec ton compagnon?
Oui.
De combien?
7 ans.
Oh, ça va, 7 ans.
Ouais.
Ça va, moi aussi.
Presque,
moi,
7 ans.
Moi, c'est 7 ans et demi. Donc ça va, c'est très bien. Mais là, on va parler du mariage du chanteur Renaud. Je sais pas si t'as vu passer ça ce week-end.
Eh ben oui, mais surtout, c'est... Oui, j'ai vu passer ça. C'est la mairie du 14e.
30 ans d'écart. Avec sa compagne. On vous pose la question, juste 30 ans d'écart entre les époux. Est-ce que c'est choquant? En tout cas, ça peut interroger, ça peut interpeller. Moi, je peux vous dire
qu'hier,
j'ai repassé un repas dominical où on a beaucoup parlé de ça hier autour de moi. Donc, on vous pose la question, est-ce que c'est choquant? Ben, vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.